France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Sans surprise, les élus britanniques ont balayé hier le texte défendu par la Première Ministre. Désormais, l'hypothèse d'une sortie sans accord à l'échéance du délai le 29 mars prochain devient prioritaire, à moins que Theresa May ne parvienne à obtenir un délai supplémentaire. Pour l'heure, la Première Ministre devra surtout affronter aujourd'hui une motion de censure.
Dans votre journal également, quand l'irruption de l'extrême droite rebat les cartes en Espagne.
Oui, en Andalousie, c'est aujourd'hui que doit être investi le nouveau gouvernement de coalition, lequel met fin à 36 années de pouvoir social. Au Kenya, au terme d'un siège de près de 20 heures, les forces de sécurité ont mis un terme ce matin à l'attaque des islamistes somaliens Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi, attaque qui a fait 14 morts selon un bilan toujours provisoire.
Dans cette édition également, au premier jour hier de la grande concertation nationale organisée en réponse à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron aura échangé pendant près de 7 heures avec quelques 650 maires.
L'occasion pour les édiles de faire part au président de leurs interrogations et plus encore des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Après de nouvelles révélations sur l'utilisation par Alexandre Benalla de passeports diplomatiques, mais aussi d'un téléphone crypté, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire de l'ex-chargé de mission de l'Elysée a prévu d'entendre aujourd'hui Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ainsi que deux ministres, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian. Et puis, nous inaugurerons un nouveau rendez-vous. Une fois par mois, nous prendrons le temps de nous intéresser à une problématique environnementale. Aujourd'hui, nous chercherons à savoir si la pétition en ligne, l'affaire du siècle, peut ou non faire émerger une nouvelle justice climatique. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On ouvre le vaste dossier de la tolérance avec nos deux invités, le rabbin Delphine Horvieur et l'écrivaine Claude Habib. L'une vient de signer Réflexion sur la question antisémite. L'autre, Comment peut-on être tolérant ? Elles seront avec nous à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. La fête de la démocratie, entendue comme l'expression de la souveraineté du peuple, serait-elle en train de dégénérer en une sorte de grande braderie de l'absurde, voire de l'irrationnel, quoi qu'il en soit. Et depuis un certain 23 juin 2016, il semble bien que la convocation d'un référendum sur le Brexit n'aura jamais permis d'offrir au fond d'autres perspectives que celles conduisant ni plus ni moins à une impasse. Hier, le désaveu attendu des députés britanniques sur l'accord négocié avec Bruxelles aura même été encore plus pesant que celui pronostiqué. Le traité conclu par Theresa May n'a obtenu que 202 voix contre 432, soit la plus lourde défaite essuyée par un dirigeant britannique depuis les années 20. Et c'est ainsi que ce vote a donc non seulement plongé, ou plutôt replongé ce matin, le Royaume-Uni dans le plus grand flou quant à son avenir, mais n'aura pas manqué non plus de faire réagir l'Union européenne, qui en appelant dès ce matin Londres à clarifier sa position, mais désormais le Parlement britannique, davantage encore que le gouvernement, face à ses responsabilités. Les précisions à Strasbourg de Quentin Dickinson.
Oui, les députés européens ont en effet tenu à débattre dès les aurores ce matin de la teneur et de la tonalité du vote intervenu hier soir aux communes. Le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a souligné que le Brexit, sous toutes ses formes imaginables et quoi qu'il arrive, était générateur de graves inconvénients pour lesquels son institution préparait des mesures limitatives pour toute éventualité, y compris de chaos. Et de citer l'écrivain anglais C.S. Lewis, « Vous ne pouvez pas retourner en arrière pour modifier le début, mais vous devez aller de l'avant pour changer la fin. » Ce fut alors à Michel Barnier d'expliquer qu'on ne pouvait trouver meilleur compromis que l'accord, négocié 17 mois durant, mais rejeté hier soir à Londres. Aucun scénario n'est désormais exclu, dit-il, y compris la sortie brutale sans accord, dont, a-t-il répété, le risque n'a jamais été aussi élevé. Michel Barnier.
Les députés de la Chambre des communes qui ont voté contre l'accord négocié avec nous l'ont fait pour des motivations très différentes, très diverses, parfois opposées ou même contradictoires. Ce vote, objectivement, n'est donc pas la manifestation claire d'une majorité positive qui définirait un projet alternatif à l'accord qui est aujourd'hui sur la table.
Les chefs des cinq principaux groupes politiques ont embrayé sur un mode très voisin. Pas de renégociation, pas de prolongation de la période de 2 années qui se termine le 29 mars sans raison valable, pas de report des élections européennes. Les intervenants se sont cependant montrés divisés sur l'opportunité d'un nouveau référendum. En concluant le débat, M. Timmermans, jamais à court de citation, a rappelé les paroles d'une chanson des Rolling Stones. « Vous n'aurez pas toujours ce que vous voulez, mais si vous faites des efforts, vous obtiendrez ce dont vous avez réellement besoin. »
Alors, on l'a bien compris, l'Union européenne ne transigera pas sur ses principes sur la question du Brexit. Pour l'heure, les 27 préfèrent laisser la balle dans le camp de la Première ministre et plus encore des élus britanniques sur le mode à vous de vous mettre d'accord sur les termes du divorce. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors, en dépit de sa réputation de résilience, la tâche s'annonce décidément toujours plus ardue pour Theresa May. D'autant qu'une nouvelle épreuve l'attend. Hier soir, aussitôt le résultat du vote connu, Jeremy Corbyn a présenté une motion de censure contre le gouvernement, motion qui sera débattue dès aujourd'hui. Le chef de l'opposition travailliste espère une défaite aussi cuisante que la veille pour Theresa May. Pour autant, Antoine, son initiative a-t-elle une chance d'aboutir ?
Pour l'instant, c'est assez peu probable, il faut le dire. Les conservateurs, même ceux qui ont torpillé hier le texte de Theresa May, s'engagent à soutenir la Première ministre, tout comme les unionistes nord-irlandais, une sorte d'union sacrée, malgré la débâcle, malgré les divisions, pour éviter que la gauche prenne le pouvoir. Mais si elle évite la guillotine, la chef du gouvernement n'aura pas pour autant les mains libres pour gouverner. Elle a en théorie jusqu'à lundi pour présenter un plan B au Parlement. Les appels à la démission se multiplient, y compris dans la presse, les entreprises et dans les ministères. C'est la panique à tous les niveaux de l'État, explique Gus O'Donnell, un ancien haut fonctionnaire. L'administration, dit-il, doit essayer de se préparer à la fois à un Brexit dur, à un Brexit doux et même à de potentielles élections législatives. On est donc en train de renforcer les équipes qui vont travailler 24 heures sur 24. Theresa May, elle, refuse toujours de partir. En 2017, après le désastre des législatives anticipées, elle disait déjà aux parlementaires « Je suis celle qui vous a mis dans le pétrin, je suis celle qui va vous en sortir ». Eh bien, un an et demi après, elle n'a pas changé. Elle continue de penser qu'elle peut organiser des discussions, une médiation entre les députés et les différents chefs de parti pour trouver une position commune sur le Brexit. Chez Barings, l'un des principaux fonds d'investissement de la City, l'un des analystes résume d'une phrase la situation. Theresa May, c'est le lapin Duracell de la politique britannique, mais cette fois, elle va dans le mur.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Qu'il s'agisse d'affronter une motion de censure déposée par l'opposition ou de réclamer soi-même la confiance des députés, peu importe au fond de savoir à qui revient l'initiative, les risques sont toujours les mêmes et c'est ainsi que le Premier ministre grec jouera lui aussi ce soir son va-tout devant le Parlement. Fragilisé après la démission de son ministre de la Défense, Alexis Tsipras entend en effet se soumettre à un vote de confiance pour espérer continuer à gouverner avec une majorité ad hoc d'ici aux élections d'octobre. En réalité, le vote de ce soir pose deux questions. Celle tout d'abord de la fin ou non d'un paradoxe politique, la coexistence au sein du même gouvernement d'un parti de gauche et d'un parti issu de la droite ultra-conservatrice. Et puis celle de la fin ou non d'un litige politico-sémantique qui dure depuis près de 30 ans, puisque d'ici la fin du mois, le Parlement renouvelé ou non devra se prononcer sur l'accord rebaptisant son voisin macédonien en République de Macédoine du Nord. La fin de 36 années de domination socialiste en Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne, c'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition de droite doit être investi. Un gouvernement regroupant les conservateurs du Parti Populaire d'un côté et les libéraux de Ciudadanos de l'autre. Mais plus encore, un gouvernement investi grâce aux voix du parti d'extrême droite Vox. C'était en effet le seul moyen pour eux d'arracher ce bastion socialiste, au prix donc de larges concessions faites aux nationalistes. L'occasion de s'interroger sur quel terreau prospère l'extrême droite en Andalousie et surtout pourquoi séduit-elle dans cette région. Élément de réponse avec le reportage de notre correspondante Marie-Hélène Ballistero.
Dans le centre de Madrid, près du siège de la formation d'extrême droite Vox, on suit de près l'investiture du nouveau président andalou. C'est la première fois depuis 36 ans que les socialistes ne vont pas gouverner cette région. Pilar est ravie.
Il était temps que les socialistes se fassent virer en Andalousie. Ils ont tout pris, c'est une honte. Je trouve ça bien le rassemblement de la droite, même si les gens sont très mécontents du Parti Populaire. Ils veulent que les choses se fassent correctement et pas comme aujourd'hui. Alors bien sûr que les socialistes s'en aillent, il y a eu tellement de corruption.
Les scandales de corruption dans lesquels sont impliqués notamment deux anciens présidents andalous expliquent en partie l'irruption de Vox au Parlement régional. Mais cette formation a su également s'appuyer sur d'autres thèmes phares, comme l'immigration clandestine, sujet d'inquiétude en Andalousie, ou la défense de l'unité de l'Espagne. Carlos se dit séduit par le discours de Vox.
Je ne trouve pas que Vox soit d'extrême droite. Pour moi, c'est un parti avec plein de bon sens et parfaitement légal. Un parti dont on a besoin en Espagne, car on ne peut pas rester à l'arrêt vu le contexte. On voit bien ce qui se passe en Catalogne. Il faut y mettre un terme. Et pour cela, on a besoin d'une formation avec certains principes. Le PP aurait dû être beaucoup plus ferme pour en finir avec les aspirations séparatistes.
En Andalousie, comme dans le reste de l'Espagne, Vox semble avoir de plus en plus d'adeptes, comme l'explique José.
Le populisme fonctionne très bien, aussi bien du côté de Podemos que de Vox, car les gens en ont marre des hommes politiques. Les deux grandes formations, le PP et le Parti Socialiste, sont là depuis très longtemps. Elles ont toujours gouverné en alternance et elles ont plein de cas de corruption.
Après l'Andalousie et à quelques mois des élections municipales, régionales et européennes, Vox compte bien chambouler tout l'échiquier politique espagnol.
15 jours après son investiture et sans même attendre la fin des vacances parlementaires, le tout nouveau président d'extrême droite a rempli l'une de ses principales promesses de campagne, prompte à satisfaire son électorat le plus radical. Hier au Brésil, Jair Bolsonaro, qui lors de la campagne aimait faire avec sa main le geste du pistolet, a signé un décret avec effet immédiat visant à autoriser plus largement le port d'armes. Une mesure dont beaucoup de spécialistes redoutent qu'elle n'aggrave encore davantage l'épidémie de violence. Au Kenya, l'attaque terroriste d'un hôtel à Nairobi est bel et bien terminée. Le président a lui-même annoncé ce matin dans une allocution télévisée que tous les terroristes avaient été abattus. Pour l'heure, un bilan provisoire fait état de 14 morts. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus impressionnante que le pays ait connue depuis de très nombreuses années. Un attentat revendiqué par le groupe islamiste Al-Shabaab. Les précisions à Nairobi de Charlotte Simonard.
Vers 10h30 ce matin, le calme est soudainement revenu aux abords du Deux Sites, ce complexe hôtelier d'un quartier d'affaires de Nairobi. Le ministre de l'Intérieur kényan sur place annonce alors la fin de l'opération, se félicitant de son succès après 20 heures de siège. Le pays est sûr et le site sécurisé, affirme-t-il. Quelques heures plus tôt pourtant, des tirs soutenus et des explosions reprenaient dès le lever du jour. La nervosité gagnait soudainement les forces de l'ordre alors que des victimes ensanglantées étaient évacués. Les tireurs, armés de kalachnikov et de grenades, s'étaient retranchés à l'intérieur avec probablement des civils. Plusieurs témoins affirment avoir vu 4 assaillants, dont l'un d'entre eux se serait fait exploser au début de l'attaque hier après-midi. Des informations pas encore confirmées par les autorités kényanes. En parallèle, des dizaines de familles attendent encore depuis hier des nouvelles de leurs proches, le regard vide autour du périmètre de sécurité. Nairobi, la capitale kényane, n'avait plus connu d'attentats depuis 2013 lors de l'attaque du centre commercial du Westgate qui avait alors coûté la vie à 67 personnes. Le Kenya est une cible privilégiée pour le groupe islamiste Al-Shabaab depuis que l'armée kényane est impliquée sur le théâtre somalien pour combattre les alliés d'Al-Qaïda.
Sans doute parce qu'il entend responsabiliser les gens en situation de difficulté, le président Emmanuel Macron, lui-même en situation difficile, aura pris le temps de donner l'exemple hier en participant au lancement en Normandie du fameux grand débat national. Pas moins de 7 heures de débat, non pas avec les gilets jaunes, mais les édiles de la région et au cours desquels le chef de l'État, délaissant quelque peu le langage technocratique, aura répété son souhait de voir ce grand débat déboucher sur une transformation de notre pratique collective. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors que faut-il retenir de cette grande séance de psychanalyse collective ? A priori, elle aura surtout servi d'exutoire aux quelques 600 maires réunis pour l'occasion, lesquels n'auront pas manqué de rappeler au président tout ce qu'ils perçoivent au quotidien de dysfonctionnement de l'État.
Oui, le grand débat ne devra pas être un grand déballage, indiquait il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. C'est pourtant ce à quoi on a assisté hier. 7 heures de discussion entre le président de la République et près de 600 maires réunis dans une salle à Bourtroude, dans l'Eure. Et il s'est passé que tous, ou presque, ont pu exposer ce qu'ils ruminent dans leur mairie depuis des années. Leurs difficultés, leurs vexations, leurs incompréhensions, leurs exaspérations qu'ils avaient éventuellement exprimé à l'occasion, mais au mieux devant le président de leur département. Là, ils l'ont fait directement en direction de celui qui est au sommet de l'État, le président de la République.
Merci, bonjour. Allez-y. Sylvie Cormier, maire d'Ambenay, commune de 583 habitants dans le sud de l'Eure. Vous allez voir, c'est un cas concret. Aujourd'hui, les maires ont une obligation sur la défense incendie. Donc voilà, moi j'ai joué le jeu, j'ai fait réaliser par un bureau d'études le schéma qui ferait que ma commune serait aux normes. Monsieur le Président, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Si je réalise les travaux, 1 million d'euros, commune de 583 habitants, j'ai pas les moyens de le faire. Et voilà, on nous impose des normes sans avoir en amont été étudié combien ça coûte. Et voilà pourquoi je levais la main depuis si longtemps, parce que je voulais que vous entendiez ça.
On a donc assisté au grand déballage de toutes les difficultés que rencontrent ces maires au quotidien et depuis des années. Et Emmanuel Macron a répondu sans faire la leçon, prenant note de ce qui lui était exposé et indiquant qu'il avait bien l'intention d'en tenir compte. Et c'est sans doute ce qui a provoqué une longue salve d'applaudissements à l'issue de ce débat, alors qu'au départ, il n'avait été applaudi que très mollement. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'a commencé à être mis au jour les nombreux dysfonctionnements de l'État français et de la société française dans son ensemble. C'est un peu comme si on avait abaissé le niveau de la mer et ce faisant fait apparaître tous les rochers qui font échouer les bateaux. Alors ça s'est plutôt bien passé parce que c'est comme si on avait ouvert une soupape qui permet de laisser échapper une pression longtemps accumulée, mais ça n'augure en rien de la suite. Et puis surtout, si c'est à ça que conduit le grand débat durant les deux mois à venir, à un grand déballage, à une forme d'exutoire de toutes les frustrations, le président ne pourra pas ne pas y répondre. Après le diagnostic, il lui faudra aller au bout du processus et apporter des solutions. Sinon, il s'expose à ce que les frustrations et les espoirs qu'il aura réveillés s'expriment de façon plus violente encore que ce qu'on a connu jusqu'ici avec les Gilets jaunes.
Merci Stéphane Robert. Le retour de l'affaire Benalla, du nom de l'ex-chargé de mission de l'Élysée, mis en examen pour des violences en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Aujourd'hui, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Schroda, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sont à nouveau appelés à s'expliquer devant la commission d'enquête sénatoriale. De même, et pour la première fois, que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors, au cœur du débat ce mercredi, on trouvera notamment les passeports professionnels qu'Alexandre Benalla a conservés pour certains jusqu'à encore très récemment, mais aussi un téléphone crypté capable de passer des communications secret défense. Je vous propose d'écouter la réaction ce matin chez nos confrères de France Info du sénateur LR de Moselle, François Grosdidier. Il répond à Lucie Barbarin.
On a voulu cacher le rôle effectif qu'il exerçait en matière de sécurité, ça c'est clair. Alors maintenant, on pose la question de la diplomatie sécuritaire parallèle, deuxième saison. C'est-à-dire, on a quand même quelqu'un qui dit qu'il n'a plus de passeport,
documents officiels. Oui, il l'avait dit le 19 septembre, qu'il les avait laissés dans le bureau de l'Élysée.
Un, l'utilise pour aller voir le frère du président tchadien, si ce n'est pas le président tchadien lui-même, avec une délégation de chefs d'entreprise.
Donc la question que vous allez lui poser, c'est, lui, il sera entendu le 21 janvier, vous allez demander au ministre aujourd'hui s'il avait des missions parallèles au nom du chef de l'État.
Au nom du chef de l'État ou
qu'il
de service de l'État. Qu'il
effectuait grâce à des documents qu'on lui avait pas demandé de restituer.
Parce que c'est pas le simple fait qu'il ait continué à utiliser le passeport. S'il l'avait pris pour passer une semaine de vacances à l'île Maurice, ce serait moins inquiétant. Quand il y va 10 jours avant le président de la République, avec une délégation de chefs d'entreprise du Moyen-Orient pour faire des investissements massifs dans un pays en guerre et où nous soutenons l'effort de guerre. Ça pose tout de même question.
Le sénateur LR de Moselle, François Grosdidier, répondait à Lucie Barbarin. 12h48 sur France Culture et un nouveau rendez-vous à présent, une fois par mois. Nous prendrons le temps de nous intéresser à une problématique environnementale avec vous. Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, à la faveur de l'affaire du siècle, du nom de cette pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 2 millions de signataires pour soutenir un recours en justice contre l'État français pour inaction climatique, eh bien, nous avons choisi de nous demander si nous pouvons aujourd'hui parler en somme de l'émergence d'une forme de justice climatique. Alors, en l'occurrence, cette pétition a choisi de s'attaquer au droit français en s'appuyant sur les engagements internationaux de la France et plus particulièrement de son président Emmanuel Macron, sacré champion de la planète sur la scène internationale. Mais peut-être avant toute chose, Véronique, faut-il préciser qu'on parle bien là d'une justice climatique en droit, en contentieux, car la revendication de justice climatique plus globale, elle, en réalité, est assez ancienne.
Oui, la revendication de justice climatique est avant tout un mouvement mondial. Il apparaît en Amérique latine dans les années 2000, un mouvement social de populations du Sud, les plus pauvres, premières victimes du réchauffement climatique, qui pointent donc la responsabilité des pays les plus riches, les plus pollueurs dans le réchauffement climatique. Dans cette demande de justice climatique a émergé donc un volet contentieux avec la multiplication ces dernières années d'actions devant les tribunaux, des actions menées par les ONG, des citoyens qui pointent donc l'absence de mise en place de lois, de réglementations satisfaisantes, rassurantes aussi, pour éviter les injustices climatiques.
Alors, parmi le millier de recours dans le monde sur ces litiges climatiques, on trouve donc cette fameuse affaire du siècle qui surprend, c'est vrai, par son ampleur. L'idée, c'est de mettre l'État français face à ses responsabilités, une initiative qui a largement été relayée jusqu'à présent par les youtubeurs.
Pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup.
Notre maison brûle. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat.
Le réchauffement annonce des conflits.
Make our planet great again.
Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression.
Nos dirigeants ne tiennent pas leurs promesses et les efforts sont toujours remis à plus tard.
Et l'État a la responsabilité de nous protéger.
Alors tous ensemble, face à l'inaction climatique, on va mettre notre État devant ses responsabilités.
Alors, ce qu'on entend dans cette vidéo qui relaie donc la pétition, Véronique, c'est qu'on demande en somme aux politiques de rendre des comptes. Cette stratégie qui consiste à attaquer un État, une nation, en s'appuyant sur ses engagements internationaux, quelle chance a-t-elle d'aboutir ?
Alors, pour l'instant, l'affaire du siècle n'en est qu'au stade de la pétition. Une pétition qui pointe dans un premier temps donc une carence fautive de l'État français, son incapacité à nous protéger de la menace climatique. Si d'ici trois mois, d'ici le 19 donc février prochain, le gouvernement français n'a donné aucune réponse sur le fond de ces carences, alors les ONG attaqueront directement l'État en justice pour espérer obtenir quoi? Je vous propose d'écouter Martha Toreschob, elle est spécialiste de droit de l'environnement.
Une carence fautive, ça veut dire que l'État n'a pas fait assez en matière climatique. Autrement dit, dans le cas où on considère que la France est engagée à la fois sur le droit international, l'accord de Paris, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et sur le plan européen pour arriver à une décarbonisation de l'Europe, si on tient compte du fait que la France est engagée à cela, cette pétition estime que la France n'a pas suivi comme il le fallait sur le plan de l'action pour épouser ses engagements et pour les honorer. Là, dans le texte de la pétition, il est demandé plusieurs choses. D'abord, que sa carence fautive soit reconnue, donc une sorte de mea culpa en réalité, et proposer éventuellement au gouvernement de prendre un certain nombre d'initiatives. Et deuxièmement, ça peut être aussi une indemnité, peut-être, tout à fait symbolique, qui pourrait être de 1 euro ou quelque chose comme ça.
Alors, on comprend que ce genre d'initiative n'aura pas nécessairement tous les résultats escomptés. Pour autant, il y a tout de même des raisons de rester optimiste, car d'autres exemples existent à l'étranger, où l'État a donc été attaqué pour inaction climatique. Et le cas le plus abouti est sans doute à chercher du côté des Pays-Bas. Là-bas, suite à une pétition signée, là encore, par 900 citoyens, une action en justice a démarré. C'était en 2015. Alors, elle suit actuellement son cours. L'État a été condamné en première instance, puis en appel. L'affaire va désormais aller en cassation, mais d'ores et déjà, la justice néerlandaise a estimé que l'État avait bel et bien failli à protéger ses citoyens des risques climatiques. Les explications de Pierre Benazet.
L'arrêt de la cour d'appel de La Haye a entraîné la signature d'un vaste accord entre autorités et société civile. Il prévoit la fin de la vente d'automobiles à moteur à explosion d'ici 2030, la sortie progressive du gaz naturel ou encore des obligations d'isolation. Le gouvernement doit encore se mettre d'accord, mais c'est déjà un grand pas selon Marianne Minesma, figure de proue de l'ONG Urgenda, qui a lancé l'action en justice contre le gouvernement
batave.
Si vous regardez ce que le gouvernement néerlandais a fait en pratique, notre niveau de CO2 n'a pas baissé en 28 ans. On promet beaucoup, mais en pratique, très peu est réalisé. Et pourtant, le gouvernement nous dit, vous savez, on va agir pour le climat, mais bon, pour le principe, on ira en appel et maintenant en cassation. Voilà, ils ne font rien et ils ont tout tenté pour ne rien faire, mais sur tous les points, on leur a donné tort.
Et même si la cour d'appel de La Haye ne prévoit pas de sanctions ni ne précise les mesures à prendre, elle fixe tout de même à l'État un objectif chiffré pour 2020, 25% de CO2 en moins par rapport à 1990.
Alors il n'y a pas, Thomas, que les États qui sont traînés en justice, il y a aussi les multinationales. En France, l'entreprise Total, l'une des plus polluantes au monde, est attaquée en ce moment par 13 collectivités françaises. C'est pour l'obliger à intégrer le risque climatique généré par ses activités. On attend aussi une décision de justice quant au forage de Total, autorisé par l'État au large de la Guyane. Tout ça est un peu trop laissé pour l'instant à l'appréciation des juges, en l'absence de directives et d'accords contraignants sur le climat. L'accord de Paris, par par exemple, n'est pas du tout contraignant, d'où cette bataille menée pour que le crime d'écocide, un crime contre l'environnement, soit reconnu par la Cour pénale internationale, au même titre que le crime de génocide ou le crime contre l'humanité. Cette reconnaissance d'un crime d'écocide permettrait de poser très clairement la responsabilité bien de chefs d'État, de dirigeants d'entreprises et même de banques qui subventionnent les énergies fossiles à hauteur de 5 300 milliards de dollars par an. C'est la bataille portée par Valérie Cabanès, elle est juriste en droit international.
Dans le cadre de la Cour pénale internationale, les crimes contre l'environnement sont reconnus en temps de guerre quand ils sont commis pour nuire à une population, la détruire de façon intentionnelle. La Cour pénale internationale, la procureure Fatou Bensouda a elle-même, depuis septembre 2016, expliqué qu'elle commençait à sérieusement se poser des questions et à vouloir donc interpréter les crimes contre l'humanité de façon plus large pour pouvoir y inclure les atteintes graves à l'environnement. Mais le fait que c'est mené en même temps un petit peu partout et qu'il commence à y avoir des succès, comme ça s'est passé au Pakistan ou aux Pays-Bas, c'est-à-dire que la justice a reconnu la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens du changement climatique, alors on rentre effectivement sur le plan juridique dans une nouvelle ère qui va progressivement amener forcément des positions plus contraignantes au niveau international et à une obligation des États de plus en plus affirmée sur le plan global international. Donc je crois que c'est très important que dans chaque État, chaque citoyen se sente concerné et rappelle effectivement à son gouvernement son devoir de protection de ses droits. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Voilà, si un jour, donc prochain, les cours pénales internationales de justice ont autorité pour se saisir de ces questions environnementales, alors on pourra aller vraiment vers une véritable justice climatique de grande ampleur. Aux citoyens, vous l'avez compris, de faire pression.
Merci Véronique Robérot. Et puis j'ajoute également que pour en savoir toujours plus sur ces différentes actions en justice, rendez-vous une sur notre site franceculture.fr. On termine avec un mot de météo sur le nord-ouest et le sud-est. Le ciel restera couvert. Partout ailleurs, nuages et éclaircies. Les températures, elles seront généralement comprises entre 4 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.